C'est l'heure de notre rendez-vous avec Histoire d'archives par Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales. C'est tout de suite, restez à l'écoute. Histoire d'archives, c'est tout de suite. Bonjour Jean-Christophe Labadie.
Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes.
Alors c'est la rentrée, même pour les archives, bien sûr.
Eh oui, évidemment, bien sûr. C'est toute une période après cette longue parenthèse estivale, durant laquelle nous avons quand même proposé des activités culturelles, le plus souvent déconcentrées, hein, donc Montagnac-Montpezat, avec conférences, lectures d'archives, mais aussi ailleurs, hein, donc à Seine, les Alpes, etc. Voilà, donc on a évidemment un programme de rentrée qui est très chargé, puisque on a cette, durant ce mois donc les journées européennes du patrimoine, hein, qui est un moment très fort de l'année. Pour tous les établissements culturels, évidemment, on n'échappe pas à cette règle. On a, je pense d'ailleurs, en y réfléchissant, on a sans doute le programme le plus chargé du mois de septembre qu'on ait jamais eu depuis 15 ans, puisqu'on est, je crois, 7 conférences, présentation d'un ouvrage, visite des archives départementales, visite de l'exposition à la cathédrale Saint-Jérôme, enfin, etc. Donc on a vraiment une très très grosse activité. Ce qui n'empêche pas qu'on a aussi notre activité normale, hein. Il ne faut pas penser qu'on ne fait que l'action culturelle aux archives départementales. On a aussi une activité qui est liée aux archives publiques. Et aujourd'hui, par exemple, la directrice adjointe est en train de faire 2 inspections d'archives communales à Puymoisson et à Riez, ce qui est le cadre normal de notre activité, c'est-à-dire en fait vérifier que les producteurs d'archives publiques, quels qu'ils soient, respectent les règles en la matière. Ce sont des inspections conseils. Hein. Évidemment, le but, c'est d'apporter un savoir-faire, quelques conseils pour que on puisse constituer en fait ce qui sera donc le corpus utilisé par les historiens dans 50, 60, un siècle, etc. Puisqu'on n'imagine jamais en fait que quand on produit des archives aujourd'hui, donc en fait simplement un courrier qu'on envoie à quelqu'un, un dossier qu'on constitue sur un thème donné, on n'imagine pas que ça présentera un intérêt. Je dis toujours hein, que nos ancêtres du XVIIIe siècle, quand ils rédigeaient des documents fiscaux, ne pensaient pas que ça allait évidemment servir à quelque chose, à connaître l'histoire hein, qu'ils étaient en train d'écrire en réalité. Donc eh ben, c'est pareil aujourd'hui, hein, on a l'impression quand on fait quelque chose que ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais on n'en sait rien, en réalité, on n'en sait rien. Et on ne sait pas ce qui sera, qui pourra constituer un document intéressant dans un siècle, etc. Voilà. Donc tout ça est important, mais parallèlement à cette activité normale, par exemple, on a aussi en ce moment nos archivistes, hein, les agents des archives, on est quand même 20 hein, aux archives départementales, qui sont en train de travailler sur le montage de tablettes pour transférer des archives, en l'occurrence des archives photographiques et particulièrement des plaques de verre, donc des négatifs hein, sur, ou des positifs d'ailleurs sur plaques de verre, donc qui sont extrêmement fragiles, qui demandent des conditions de conservation très très particulières, mais ils sont en train justement de constituer un nouveau magasin dans notre extension pour transférer ces plaques de verre pour donner plus de place à la personne qui s'occupe de tout ce qui concerne la documentation. puisqu'on conserve aussi tous les journaux. Et on a pas seulement des archives, hein, on a aussi une forte documentation de bibliothèques, alors bibliothèques historiques, bibliothèques administratives, bibliothèques d'études, mais aussi donc la presse. Et on a comme ça, alors on n'a pas toute la presse, parce que malheureusement on a des lacunes qui dépendent de la conservation, mais on a aussi tout ça. Et puis on a aussi un travail, de classement. Il y a actuellement deux agents qui travaillent sur les archives judiciaires, hein, qui sont en train de faire un peu un inventaire, une analyse plutôt pour le moment, une analyse de boîtes d'archives qui ont été versées par le tribunal, en fait, hein, le tribunal judiciaire, il y a maintenant quelques années, et qui concerne les choses les plus horribles qu'on puisse imaginer, hein, donc les crimes et délits. Et donc ils sont en train, justement, alors quelquefois c'est un peu difficile, hein, parce qu'ils tombent sur des dossiers un peu lourds, pour dire les choses crûment. Mais on a tout ce travail qui est réalisé parallèlement à notre activité culturelle. Je rappelle aussi, d'ailleurs, qu'on est justement... dans le milieu des archives départementales, un des services qui développe le plus justement cet aspect-là, qui répond aussi à une demande, hein, des territoires, hein, des habitants du territoire, et on essaye d'y répondre. Alors, quelquefois, c'est difficile, mais on essaye de ne pas faire qu'à Digne. Hein, on fait assez peu à Digne. On développe beaucoup d'activités en dehors, et ce que je vais évoquer maintenant, justement, avec notre programme, qui commence d'ailleurs en réalité aux archives départementales, avec une conférence qui aura lieu le 11 septembre, le jeudi 11 septembre à 18h. C'est toujours les jeudis et à 18h, hein, aux archives départementales, avec une conférence qui sera prononcée par Émilie Porcher, qui est une archéologue et qui travaille actuellement à l'Isle-sur-la-Sorgue et qui avait travaillé sur le site gallo-romain du Bourguet à l'Escale. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment une spécialiste, hein, et donc c'est la première, c'est elle qui va ouvrir un peu le bal du mois de septembre avec cet exposé qui est lié d'ailleurs à la construction du barrage de Château Arnoux-l'Escale, hein, où on a donc découvert un certain nombre de matériel archéologique, hein, qui permet d'étudier cette période. Ensuite, deuxième conférence. Alors cette fois-ci, on est décentralisé puisque c'est à Noyers-sur-Jabron. Alors c'est une conférence que je prononcerai qui s'intéresse aux prisonniers de guerre allemands. C'est un sujet méconnu. Quand on parle de la guerre, souvent on parle des vainqueurs, hein, on ne parle pas des vaincus, ou on parle des vaincus justement parce qu'il y a des vainqueurs. Mais on oublie aussi que les guerres laissent des traces. Elles ne s'arrêtent pas, ces traces ne s'arrêtent pas à la période, à l'armistice, par exemple, ou au traité de paix, ou à la capitulation, en l'occurrence, hein, pour le 8 mai 1945. Il y avait donc beaucoup de prisonniers de guerre allemands dans le département, alors faits prisonniers dans le département, mais aussi des prisonniers qui ont été transférés dans le département, parce qu'il fallait reconstruire, il fallait reprendre des activités, alors des activités agricoles, mais aussi reprendre la question des routes, hein, qui avait été quand même très négligée pendant la guerre, etc., etc. Et donc on construire des barrages aussi, hein, le barrage de Castillon, et donc déminer. En particulier en Dubaï, mais pas seulement. Donc il a fallu une main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre, eh bien, elle était toute trouvée. On a donc utilisé les prisonniers de guerre, plusieurs milliers, hein, qui étaient disséminés, alors, soit dans des gros contingents, comme par exemple pour le barrage de Castillon, mais soit aussi tout simplement quelques prisonniers de ci, de là, dans les communes, à la demande des maires, et qui sont devenus ensuite des travailleurs volontaires, puisqu'à un moment donné, donc, on devait les libérer, et puis certains sont restés. Et en fait, ce sujet avait été étudié par Guy Raymond dans un très bel ouvrage, hein, qu'il avait publié sur ce sujet, qui évidemment à la base de ma conférence, puisqu'on a finalement assez peu d'archives, alors que lui avait travaillé beaucoup aussi avec les témoignages des uns et des autres, qui permet donc de ne pas oublier, en fait, cette histoire de ces Allemands, de ces hommes qui sont restés après la guerre, et dont certains sont décédés d'ailleurs dans le département, et c'est le cas donc notamment d'un de ces prisonniers, Otto Adler, qui est mort à Noyers-sur-Jabron, donc le 3 avril 1949. C'était d'ailleurs le point de départ hein, de cette demande de conférence. Je passe ensuite eh bien, tout simplement au samedi 13. Alors, au samedi 13 juillet à Saint-Michel, l'Observatoire, je participe en fait à une présentation...
Pardon ? Vous avez dit
13 juillet, pardon, 13 D'accord. septembre, oui, bien sûr, oui, 13 septembre, oui, 13 septembre, oui, je suis déjà, voilà. Le 13 septembre, le 13 juillet, c'est l'anniversaire de mes enfants, hein, de mes enfants, c'est pour ça, voilà, ça a dû venir tout seul. Voilà, le 13 septembre, donc, à Saint-Michel, l'Observatoire, je participe donc à la présentation d'un ouvrage qui est publié par, par une association, hein, les Amis de Saint-Michel et de l'Incel. C'est un tome 2. De l'histoire locale. Alors, on m'avait demandé, moi, de travailler particulièrement sur les brigands, hein, puisque c'est un des sujets que j'avais étudié à une époque. Donc, évidemment, j'ai adapté le sujet au lieu. Hein, j'ai évoqué, évidemment, la question générale des brigands dans le département, mais aussi la question des brigands autour de Saint-Michel et de l'Incel, parce qu'en fait, c'est un foyer... Je lisais hier, vous voyez, un texte qui avait été écrit en 1943 par l'archiviste départemental à la demande du préfet. Le préfet lui avait demandé de faire un peu un résumé de l'histoire du département. Et dans ce résumé qui ne fait que 3 pages, hein, eh bien, il y avait 4 lignes sur le fait des brigands pendant le directoire, qui est un fait très important, qu'on a totalement oublié dans la mémoire collective. Les historiens s'y intéressent, évidemment, mais la mémoire l'a oublié. Hein, on parle de la Révolution, on parle des institutions, de ce qui reste, etc. Mais on a oublié que c'est une période très troublée, avec un brigandage royal au départ, hein, et puis un brigandage ensuite délinquant, les deux se mélangeant, d'ailleurs, on ne sait plus trop... les motivations des bandes, hein, alimentées en particulier par la conscription. Hein, donc ceux qui souhaitaient échapper à la conscription, ben, soit ils se cachaient, soit ils rentraient dans des bandes. Voilà, hein, donc c'est une façon de survivre en réalité. Et puis aussi pour des raisons politiques. Voilà. Donc là, c'est donc le samedi 13 donc, septembre à 17h. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, à Saint-Michel Observatoire. Alors, évidemment, je suis l'un des auteurs. Hein, il n'y aura pas que moi, hein, il y aura tous les auteurs qui présenteront leur participation donc, à cet ouvrage collectif, qui est une très belle initiative et à laquelle je suis très heureux d'avoir participé. Voilà, donc ça, c'est Saint-Michel.
Est-ce que c'est indiqué sur le programme ?
Alors, ce n'est pas sur le programme, ah, voilà. Parce que c'est en dehors, c'est organisé par l'association, donc ce n'est pas sur notre programme, effectivement. Un autre événement d'ailleurs qui n'est pas sur notre programme parce qu'il a été, vous savez, le programme est construit bien en amont et c'est toute la difficulté en fait. Et évidemment, il évolue. Alors quelquefois, il évolue négativement, c'est-à-dire qu'on, bah, quelqu'un ne peut pas faire la conférence hein, pour laquelle il s'est engagé pour des raisons diverses et variées. Mais il y a aussi des événements qui s'ajoutent. Et là, en l'occurrence, le dimanche 14 septembre, hein, donc à Barle. Donc il y a une journée qui est organisée donc, par des associations, en l'occurrence l'association Vallée du Besse hein, qui m'a proposé de faire une conférence donc, à 10h30 le dimanche matin à Barle sur les villages abandonnés. Alors c'est pareil, c'est un sujet que j'avais d'ailleurs étudié en même temps que celui des brigands, hein, c'est 2020, c'est la période du Covid, où j'avais évidemment beaucoup de temps, puisque j'avais plus d'agents donc, sur place, et qui était au départ donc, d'ailleurs un ouvrage de photographie, hein, et donc on m'a demandé d'évoquer ce sujet-là, alors, et là aussi évidemment je l'ai adapté, à la vallée, donc, alors, et j'ai bénéficié aussi d'une thèse qui vient d'être soutenue par un de nos conférenciers, d'ailleurs, hein, qui a déjà fait deux conférences aux archives départementales, qui reviendra d'ailleurs en faire une, qui a soutenu sa thèse début juillet sur, justement, les villages abandonnés, alors qu'il ne concerne pas d'ailleurs que le seul département des Alpes-de-Provence ou des Basses-Alpes, hein, avant 70, et qui évoque donc Tanaron, hein, tous ces villages qui ont beaucoup souffert de l'exode rural. Donc là, c'est le dimanche 14, 10h30, et ça sera vraiment l'occasion de revenir sur le sujet des lieux abandonnés. On considère souvent que le département des Basses-Alpes à l'époque était l'un de ceux qui a le plus souffert de l'exode rural dès les années 1840. Hein, donc on est passé de, en gros, 160 000 habitants à un peu plus de 70 000 dans les années, au début des années 50. Hein, vous voyez, donc vraiment une décrue démographique absolument conséquente, qui est due surtout d'ailleurs à une émigration, hein, qui n'est pas tellement due à une chute de la natalité, à une émigration. Là, en ce moment, je suis en train de... Alors, je digresse, là, tout de suite.
D'abord, où est-ce que c'est à Barle?
Alors, c'est à Barle. Le village est en... En fait, c'est une... journée d'artisanat.
Ah, d'accord.
Voilà, donc, alors je ne pourrais donc pas vous dire exactement le lieu, mais c'est à Barle. Voilà.
C'est en plein air, vous ne savez pas.
Alors je ne sais pas.
Ouais, d'accord.
Mais c'est dans Barle.
On trouvera. Après, Barle, c'est à 10h30. C'est
Barle,
petit.
C'est quand même très petit.
Oui.
Donc on devrait.
Il y a un restaurant toujours au milieu.
Oui, voilà. Voilà. Donc ça ne sera pas très compliqué, je pense, de trouver. Ça rentre en fait dans un programme plus général, en fait.
D'accord.
Hein, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais traiter des lieux abandonnés, des villages abandonnés. Voilà. Donc ça, c'est à Barle. Oui, je disais, donc, la question démographique. Hein, je suis en train de classer un fonds qui appartient à la commune de Barcelonnette, qui est le fonds qu'on appelle, du nom de ceux qui l'ont constitué, Adrien et Aimé Gassier. Alors, Aimé Gassier et Adrien Gassier sont des hommes à la fois politiques, mais aussi des propriétaires, des capitalistes, hein, pour l'un, Adrien, comme on disait à l'époque, qui ont un peu dominé leur période, hein, donc la période, on va dire, 1880, 1900, jusqu'à la Première Guerre mondiale, pour simplifier. Adrien, donc ses deux frères, hein, ce sont deux frères, Adrien Gassier s'est occupé spécialement des affaires de la famille, en particulier de la banque Gassier Frères, qui était l'une des banques de Barcelonnette. Quant à son frère Aimé, lui a eu une carrière politique, hein, qu'il a menée au conseil départemental, d'ailleurs comme son père et son grand-père, et comme Adrien aussi d'ailleurs, mais aussi à la députation et au Sénat. Vous voyez, donc un homme politique de premier plan au niveau local. On va dire que c'est l'homme politique par excellence avant André Odorat, quoi, voilà, qui est le deuxième grand homme politique de Lubaye dans cette période, et évidemment Paul Reynaud, hein, qui a un destin évidemment national, puisque c'est le dernier président du Conseil de la Troisième République, hein, donc personnage évidemment considérable aussi. Eh bien, ces individus, enfin, en l'occurrence, Aimé, a immigré au Mexique, hein, comme beaucoup, beaucoup de basalpins, pas seulement d'ailleurs des Barcelonnettes, hein, comme on les appelait au Mexique, mais aussi des Dinois, des Sénois, etc. Hein, et qui est parti avec plusieurs jeunes. Hein, donc voilà, on avait vraiment une immigration très très forte. Alors soit une immigration, au départ, l'immigration était temporaire, et puis ensuite elle est devenue définitive. Et par exemple au Mexique, certains sont revenus, mais d'autres sont évidemment restés sur place, ils ont fait souche au Mexique, mais c'est vrai aussi en Louisiane, c'est vrai en Amérique du Sud, c'est vrai aussi en Afrique du Nord, etc. Vous voyez, c'est un phénomène qu'on retrouve partout. C'est une immigration au départ, d'ailleurs, qui n'intéresse pas forcément les pays étrangers, hein, qui commencent par aller par Marseille, hein, les fameux Gavot, Nice pour la partie est du département, Paris, beaucoup. Hein, on le voit dans les registres matricules. Hein, on voit que les jeunes, il y a leur domicile et on voit où on les retrouve. Et on voit aussi l'importance de cette émigration, hein, qui est vraiment... voilà. Donc ça sera évoqué donc, à l'occasion de cette conférence, avec évidemment la partie, je vais dire, décrue, hein, donc abandon, et puis la partie reprise, hein, puisqu'il y a eu des projets dans les années 60, 70, de reprise de lieux abandonnés, hein, pour y vivre, pour des raisons diverses et variées là aussi, pour soit pour des choix éthiques, des choix de vie, des choix politiques, etc. Voilà. Donc tout ça sera évoqué lors de cette... alors c'est une conférence, je ne sais pas quelle forme ça aura, c'est assez particulier. Ça sera, je pense, très interactif. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est pour Bâle, le dimanche 14 septembre. Voilà. Je continue avec l'agenda. Donc je parlais des journées du patrimoine en particulier. Hein, je vais les sortir un peu du contexte. J'ai d'ailleurs oublié que dès samedi, le 6 septembre, il y aura une lecture d'archives à 11h à Montlot devant la salle municipale, donc en plein air, à table. Alors à table, ça sera donc une lecture d'archives prononcée par les comédiens de la Mobile Compagnie avec lesquels on travaille depuis 2010-2011. Mm-hmm. Donc ça fait une longue coopération. Et à table, c'était une exposition qu'on avait proposée en 2018, je crois, si mes souvenirs sont bons, et qui s'intéressait justement au repas, mais aussi bien au repas des riches qu'au repas des pauvres, hein, des humbles, hein, ça s'appelait comme ça, repas des riches, repas des humbles, qui rappelle en fait les régimes alimentaires, hein, des temps anciens, qu'est-ce qu'on mangeait. Voilà, donc c'est le gras du côté des riches, puis le maigre du côté des pauvres. Il y a la question aussi, évidemment, du pain, hein, qui est très importante, hein, puisqu'on mange beaucoup de pain dans les milieux populaires à l'époque, etc. Voilà. Donc ça, c'est lecture d'archives, samedi 6 septembre à 11h, donc à Montlot. Mmh. J'ai évoqué donc le port gallo-romain du Bourguet, les prisonniers de guerre. J'évoquerai donc effectivement la question des journées européennes du patrimoine. Le 25 septembre, donc là on fait un petit bond chronologique, nous allons proposer aux archives départementales cette fois-ci donc une conférence qui sera animée par Alain de Michelis, donc qui est un membre du Félibrige, autour de Frédéric Mistral, provençal et universel, hein, la question toujours de la place que peut avoir une littérature qui est très marquée par son origine géographique, mais qui porte aussi des valeurs universelles. Et puis le samedi 27 septembre, là aussi dans le cadre d'une foire des artisans d'art et métiers d'antan, franco-italienne, hein, cette foire, eh bien qui est organisée d'ailleurs par le syndicat mixte des villages et cités de caractère des Alpes-de-Provence, hein, je participerai donc à cette journée, enfin, à cette foire, en prononçant une conférence sur les métiers d'autrefois dans les Basses-Alpes. Alors, c'est un sujet un peu difficile parce que, comme toujours, c'est la question des archives. De quelles archives disposons-nous pour évoquer cette question, d'autant plus qu'on est dans une Haute-Provence qui est plutôt agricole, hein, où les métiers sont liés vraiment à l'activité agricole. On a surtout des paysans, hein, donc quand cette paysannerie disparaît, bah, avec cette paysannerie qui disparaît, disparaissent aussi des métiers liés, évidemment, à l'activité agricole. On le voit d'ailleurs partout, les enquêtes, on a une enquête qui date de 1938, hein, qui est faite, qui est à la fois quantitative et qualitative, et donc où les maires ont pu ajouter des remarques, eh bien, je prends l'exemple du maire de Colmar qui se désole que depuis de nombreuses années, donc on est en 1938, sa commune a perdu un bourrelier, un sellier, un horloger par suite de leur décès, donc non remplacés, hein, des métiers non remplacés, et lui-même souhaite l'installation d'artisans de ces professions, en plus d'un cordonnier, d'un tailleur, d'un charron et d'un peintre en bâtiment. Voilà. Et à Villars-Colmar, lieu où les tisserands étaient importants, ces métiers-là qui disparaissent.
Qu'est-ce que c'était, un charron ?
Pardon ?
Un charron, vous
parlez ? Alors les charrons, c'est tous les métiers liés en fait à la terre, donc ouais. À l'exploitation, donc les charrues, etc. Voilà, ouais. Donc tout ce qui est instrument agraire, voilà. Donc peintre en bâtiment, voilà. Donc en fait, vraiment que les métiers liés au transport, les chevaux, l'utilisation des chevaux, l'utilisation, etc. Voilà. Alors là, ils sont plutôt sur des métiers de ce type-là, mais on évoque aussi les boulangers, etc. Vous voyez. Or, on sait, et les maires en avaient évidemment conscience à l'époque, qu'évidemment, avec la disparition d'artisans, de commerçants, c'est aussi la vie du village qui disparaît. C'est un lieu commun que je viens d'exprimer là, mais c'était déjà vrai à l'époque. C'est vraiment un sujet. Ce sont des plaintes qu'on retrouve à peu près partout. Et souvent, alors c'est lié au fait qu'il n'y a plus de marché, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que comment un artisan ou un commerçant peut-il continuer à vivre alors qu'il n'y a plus de public, même si c'est plus ou moins compensé, comme à Villars-Colmar ou à Colmar, par une activité touristique qui se développe, des gens qui viennent sur place et donc qui consomment. Donc c'est une vraie question qui se pose déjà, qui est toujours la même, et qui a trait donc à ça. Les maires aussi amènent d'autres raisons, le manque d'électrification, la question des routes et des transports. C'est un écosystème évidemment qui est dénoncé en fait parce qu'on est dans un pays pauvre tout simplement. Et comment voulez-vous mettre de la richesse dans un pays qui se vide de ses habitants ? Vous voyez, il y a aussi tout ça, les écoles qui ferment. Enfin, oui, il y a tous ces aspects-là. Le fait aussi qu'on manque de plus en plus justement de personnes qualifiées. Vous voyez, puisque ces personnes qualifiées, ce sont souvent celles qui disparaissent les premières, qui partent puisqu'elles trouvent facilement du travail ailleurs. Voilà, il y a toutes ces questions qui seront évoquées dans cette conférence. Et peut-être qu'on pourrait faire une petite pause avant que je reprenne sur les journées européennes du patrimoine.
Tout à fait.
Alors une petite pause musicale. Donc, j'ai amené le dernier album des Sparks, qui est donc sorti cette année, je crois que c'était au mois d'avril, avec un titre donc c'est le numéro 5. Je suis en train de le chercher, c'est My...
Alors, le 5, c'est Running Up a Table.
Le 5, non, c'est
At the Hotel for the Fave. Alors, je ne sais pas comment on prononce, mais...
C'est le 5.
Ah non, pardon. Non, My c'est... Devotion.
Voilà, c'est
quand
My
même
Devotion,
plus facile.
Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Ça, c'était le 4, ça.
Voilà.
Exactement, voilà. Et bonne écoute à vous tous.
Il faut que je change mes lunettes. On écoute tout ça, Jean-Christophe Lamadie.
Voilà.
Devotion to you is about all that I do. Got your name written on my shoe, and I'm thinking of getting a tattoo. My devotion to you is about all that I do. Days I do not sing this song, you still know my feeling strong. Everywhere we walk, though in a crowd there's no one else. Every Sunday morning I'm there praying for your help. Single-minded may be boring, most folks would agree. Though the word's pretentious, I'd still call it destiny. My devotion to you written on my shield, and I'm kicking against the tattoo.
Voilà encore un joli morceau.
Oui, un petit morceau léger, un peu, hein, qui met un peu de joie et de baume au cœur donc en cette rentrée. Voilà. Alors on en était aux Journées européennes du patrimoine, donc comme je disais, qui est un moment fort de notre année culturelle. En fait, normalement c'est le week-end, mais nous on commence un peu plus tôt, puisque dès le jeudi 18 septembre à Pépin. Je prononcerai une conférence donc à 18h sur les cadastres d'Ancien Régime et révolutionnaires et napoléoniens. Alors c'est un sujet qui paraît comme ça un petit peu austère, hein, mais qui en réalité renvoie à beaucoup de notions qu'on a un petit peu oublié. Sous l'Ancien Régime, donc les fameux cadastres sont en fait les cadastres de la taille. Alors la taille, c'est l'impôt royal par excellence, hein, c'est un impôt qui est... Alors on dit, pour simplifier, que c'est un impôt direct, hein, par rapport aux impôts indirects qu'on connaît aujourd'hui, mais en fait, sous l'Ancien Régime, ça n'a pas de sens, hein, c'est une notion qui n'a pas de sens. On parle plutôt d'ordinaire et d'extraordinaire, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la taille était un impôt extraordinaire, à l'origine, puisqu'il avait été, c'est un impôt seigneurial qui est devenu, qui a été récupéré, enfin qui a été imité en fait plutôt de la taille seigneuriale, qui était une taille au 4K, pour en faire une taille royale, c'est-à-dire en fait un impôt qui à l'origine était extraordinaire, qui était lié en fait tout simplement au financement des armées, de l'armée durant la guerre de 100 ans. Donc là, on est au XIVe et au XVe siècle, et qui, comme beaucoup d'impôts, de l'extraordinaire est devenu un impôt ordinaire, hein, comme souvent, hein, qui est donc devenu un impôt permanent, et qui était l'impôt royal par excellence, qui concernait, alors, dans nos régions, les terres, puisqu'en fait, alors tout ça est un peu compliqué, hein, et c'est ce que j'explique dans la conférence, les terres, en fait, on distinguait les terres nobles des terres roturières, et seules les terres roturières supportaient la taille. Quel que soit le possesseur, qu'il soit noble ou pas, celui qui possédait une terre roturière payait la taille. Alors que dans le nord de la France, hein, pour simplifier, la taille était personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle dépendait du statut de la personne. Si la personne était noble, quel que soit ce qu'elle possédait, elle ne payait pas la taille. En revanche, toutes les personnes roturières payaient la taille. Vous voyez, donc il y a des différences. Donc ça renvoie donc évidemment à la question de la propriété du sol, hein, l'occupation du sol, sachant qu'il y a une autre notion qui est importante, qui est la question de la propriété éminente et de la propriété utile. Alors c'est un peu compliqué, c'est dans le cadre seigneurial. Le seigneur, en fait, celui qui exploite la terre a ce qu'on appelle la propriété utile, et le seigneur a sur lui une propriété éminente, hein, qui se traduit notamment par des droits, hein, que celui qui exploite paye à son seigneur. Vous voyez, donc il y a des notions. Alors, ça n'a pas de rapport avec la taille, hein, mais c'est pour vous rappeler un petit peu la difficulté des choses. Et donc, on arrive au cadastre révolutionnaire, où l'ambition, hein, c'est que l'impôt principal soit supporté, hein, par la terre, hein, son assiette soit la terre, hein, que l'assiette, en fait, concerne tous ceux qui détiennent les terres, puisqu'il n'y a plus, évidemment, la question des statuts des personnes, hein, noblesse, clergé, tiers état, puisque tout ça a disparu en 1789. Et donc la question de l'égalité devant l'impôt, et le fait qu'il n'y a de seule richesse que de terre, en fait, hein, ce qui est quand même l'idée de l'époque, ce qui sera moins plus vrai, évidemment, à la fin, avec la révolution industrielle, etc. Et donc, on arrive, comme cela, avec la loi de finances de 1806, au cadastre napoléonien, hein, qui est un projet absolument incroyable. Enfin, la réalisation, c'est de cadastrer absolument toutes les parcelles de tout le territoire, en fait, d'en calculer la nature, la superficie, d'en définir les limites, hein, donc c'est les fameux plans du cadastre napoléonien, puis ensuite de faire ce qu'on appelle les états des sections, c'est-à-dire en fait par partie du terroir de la commune, décrire de la parcelle 1 à la parcelle X la superficie, la nature, le possesseur et l'impôt foncé, hein, en l'occurrence, qui est supporté donc par cette parcelle, et puis ensuite par possesseur, donc c'est ce qu'on appelle des matrices cadastrales, hein, c'est le troisième élément du cadastre napoléonien, où on a par individu donc ce qui est possédé et donc ce qui est dû en termes d'impôts fonciers. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'en réalité ce sont des pourcentages, en fait, hein, c'est pas ce qui est dû, et c'est pareil pour la taille, c'est-à-dire que la taille, en fait, on a un montant qui est donné par personne, enfin par parcelle et donc par personne, mais qui est en fait un pourcentage en réalité de ce que la communauté va payer comme taille, puisqu'en fait ça dépend des années. En fait, on a tendance plutôt à augmenter, d'ailleurs, hein, c'est un impôt qui a tendance à augmenter, et donc c'est une proportionnalité, voilà. Sachant qu'il y a aussi une solidarité, hein, détaillable, c'est-à-dire que si quelqu'un est défaillant, ben c'est les autres qui payent à sa place, voilà. Voilà, donc tout ça sera abordé lors de cette conférence à Pépin, le 18, donc c'est quelque chose de très vivant, et en plus, les gens s'y intéressent beaucoup, parce qu'ils y retrouvent les lieux-dits, vous voyez, les toponymes, hein, donc les noms de lieux. Et ils y retrouvent aussi le nom des personnes, hein, qui évidemment ont une résonance particulière pour un public local. Voilà, donc ça c'est le jeudi 18. Le lendemain, le vendredi 19, voilà, donc, alors là je serai à Riez, donc, hein, je me promène pas mal, en fait, hein, durant ce mois, et je prononcerai là cette fois-ci une conférence sur la disparition de l'évêché de Riez. Donc c'est la période révolutionnaire, hein, puisque des 5 évêchés, on est passé à un seul, dont la disparition de celui de Riez, qui était un évêché très important, très ancien. Donc on est dans la période 1789-1793. La réforme administrative de la Constituante, hein, qui est la grande œuvre de la Constituante, évidemment, a créé les départements, les districts, les cantons, les communes, et a souhaité qu'il y ait un évêché par département. Donc, d'où la suppression de tous les évêchés, des évêchés qui existaient donc sous l'Ancien Régime en Haute-Provence, sans compter ceux qui avaient qui étaient donc installés hors du département, hein, enfin hors de la Haute-Provence, mais qui avaient une partie, hein, qui concernait la Haute-Provence, donc le futur département. Donc digne donc le étant la préfecture, donc c'est le siège du nouvel évêché. Il y a aussi la deuxième question qui est derrière, avec la disparition de ces évêchés, il y a aussi la constitution civile du clergé et aussi la nationalisation des biens du clergé, donc deux choses très très importantes. La nation a besoin d'argent, et a besoin d'une base pour sa monnaie, hein, l'assignat, Donc la base, ça sera c'est justement ces biens du clergé qui ont été nationalisés, avec les archives d'ailleurs, hein, les archives aussi font partie du bloc, c'est comme ça, c'est pour cette raison qu'on a des archives de cette période. Et donc une partie sera vendue, hein, enfin, aux enchères, etc. Donc il y a aussi cette question-là. Et puis la question de la constitution civile du clergé, c'est-à-dire en fait, les membres du clergé sont obligés de prêter serment à la nation, et certains ne le feront pas, ce qu'on appelle les réfractaires. Mais en réalité, dans le nouveau département des Basses-Alpes, il y aura très peu de réfractaires. Hein. C'est un phénomène assez marginal par rapport à d'autres départements, évidemment, où on aura... Voilà. Donc tout ça sera évoqué. Alors, ça rentre dans le cadre, en fait, d'un anniversaire. Les 50 ans de l'association Les Amis du Vieux Riez, hein, donc une vieille association patrimoniale, très active. Tous les ans, je crois qu'on fait quelque chose avec eux, soit une lecture d'archives, hein, ce qui est le cas le plus souvent, soit une conférence, ce qui est le cas donc cette année. Donc ça, c'est à Riez. Donc, je disais le donc...
Vendredi 19,
un jeudi, c'est Pépin, vendredi, c'est Riez. Voilà. On arrive toujours au vendredi, au même moment... une autre conférence sera prononcée, mais cette fois-ci aux archives départementales, par Sylvie Leroche. Alors Sylvie Leroche, c'est notre professeur relais d'histoire. Donc c'est une professeure d'histoire-géographie, donc au collège Borély, qui est notre professeur relais, hein, donc du service éducatif des archives départementales, qui est là depuis maintenant bien des années, puisque quand je suis arrivé en 2010, elle était déjà la professeure de service éducatif, qui connaît très très bien l'histoire du département, connaît très très bien les archives, et qui va faire une conférence sur les femmes, et en l'occurrence sur leurs droits, du Code Napoléon, donc 1804, à Alexandra d'Avinel. Alors, Code Napoléon, en fait, il a été promulgué, alors qu'on est encore sous Bonaparte, hein, mais c'est ce qu'on appelle le Code civil, hein, tout simplement, donc en 1804, qui confère aux femmes un statut de mineur, mineur dépendant de leur père, et puis quand elles sont mariées, mineur dépendant de leur mari. Voilà, donc c'est toute cette question-là qui va être évoquée, jusqu'à l'émancipation, dont l'un des exemples est évidemment Alexandra d'Avinel, hein, qui est l'une de ces femmes qui ont combattu pour l'égalité homme-femme, elle s'étant évidemment imposée comme une figure exceptionnelle, hein, mais finalement... marginal, puisque ce n'est pas le cas général, évidemment, par son talent, par sa vie, par ses choix de vie, par ses voyages, etc. Voilà, donc elle s'intéressera à tous les stéréotypes, hein, qui sont avancés sur les rôles des hommes et des femmes. Je lisais récemment pourquoi les maris pouvaient empêcher leur épouse d'avoir une activité professionnelle, en fait, hein, tout simplement parce qu'ils étaient les mieux placés pour juger justement des capacités intellectuelles de leur épouse. Vous voyez, c'est ça l'argument. Enfin,
ça,
voilà.
Ça peut faire bondir beaucoup de femmes, mais, évidemment.
Mais, ben oui, évidemment. Hein, donc voilà. Donc, puisque je lisais, alors vous voyez, ce matin, je lisais dans la revue L'Histoire, qui est consacré quasiment exclusivement, enfin, qui est un spécial sur Marc Bloch, hein, qui est le grand historien médiéviste, fusillé par les Allemands en 1944, hein, torturé par la Gestapo et fusillé en 1944, qui va être panthéonisé donc l'année prochaine. Je lisais donc un des articles d'un des auteurs de la revue, et qui disait qu'en fait le plus important, c'est de comprendre, en fait, hein, c'est-à-dire que évidemment la question, c'est on décrit quelque chose, hein, par exemple on dit que les femmes sont considérées comme des mineures. La question, c'est pourquoi. Vous voyez, c'est toute la... Voilà. Et on retrouve des arguments, hein, dans les textes, dont celui que j'ai évoqué, hein, l'homme qui est capable, le mari est le mieux placé pour comprendre, pour évaluer, hein, ce que sa femme est capable de faire et de ne pas faire. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Donc ça sera donc le vendredi 19 septembre, donc aux archives départementales. À 18h. Voilà. J'en ai fini pour les conférences, mais ce n'est pas la fin pour les Journées européennes du patrimoine, car le samedi, nous proposons en fait une visite. Alors c'est Marie Brunel, donc la directrice adjointe, hein, qui propose trois visites, alors 10h, 14h et 16h, une visite guidée aux archives départementales pour découvrir évidemment le bâtiment tel qu'il est, hein, qui est donc le bâtiment ancien, on va dire, hein, celui qui date des années 90, et puis notre extension, hein, qui a été donc ajoutée l'année dernière, hein, qui est rentrée en service pour nous en mars de cette année. Et donc ça sera l'occasion pour chacun de découvrir un petit peu à la fois les locaux, mais aussi les activités, car en visitant évidemment les archives, on comprend mieux ce qui s'y passe, de l'entrée des archives jusqu'à la salle de ce qu'on appelle la salle de tri. Alors maintenant, on a deux salles de tri, et puis la conservation dans les magasins, hein, puisque aujourd'hui, on avait donc les 8 premiers magasins qui existaient, et on a rajouté pour le moment, enfin, 9 magasins, dont 5 sont actuellement en activité, 4 sont en activité, et le reste est en réserve, puisque l'idée c'était de construire tout ce qu'il nous faudrait, donc 10 km, l'équivalent de 10 km d'archives, mais d'en aménager pour le moment que la moitié, et puis ensuite, quand on aura besoin, on aménagera l'autre moitié. Voilà. Donc on se projette dans un futur qu'on peut évaluer à une vingtaine d'années, en fait. Hein. On a 10 à 20 ans de potentiel pour accueillir des archives. On accueille à peu près chaque année 250 mètres d'archives linéaires. Alors, quand je dis 250 mètres, on prend la largeur d'une boîte, qui en général fait 10 cm, hein, la largeur standard, et on calcule tout simplement, hein, le métrage. Mm-hmm. Voilà. Sachant qu'on détruit dans le département à peu près 2 km d'archives chaque année. Vous voyez, pour donner 2 km à 2 km et demi, hein, pour donner un ordre de proportion, on en garde en gros un petit dixième de ce qui va permettre de protéger les droits des personnes, les droits de l'administration, et permettre la bonne administration, et puis évidemment la valeur historique, hein, de ces archives. Voilà, c'est essentiellement les raisons pour lesquelles on conserve des archives. Voilà, donc ça, vraiment j'engage, parce que ça fait longtemps qu'on ne le faisait plus, hein, on n'ouvrait plus pour les Journées du patrimoine les locaux, donc je crois que ça fait au moins, je crois même avant, depuis le Covid, je crois qu'on n'avait plus ouvert, donc là c'est vraiment l'occasion de revenir pour ceux qui connaissaient déjà, ou de découvrir pour ceux qui le souhaitent, les archives départementales, et l'activité de ces 20 agents qui œuvrent chaque jour, avec évidemment la diversité des métiers. Donc ça, c'est... Alors, en visitant les coulisses des archives, eh bien, on pourra découvrir aussi de nos expositions. Alors, il y a celle qui est déjà installée, qui va être désinstallée en novembre, en voiture, s'il vous plaît, hein, donc, qui est là maintenant depuis un an et demi. Alors, ça sera donc l'exposition qu'on pourra évidemment découvrir. On pourra aussi découvrir, durant ces Journées du patrimoine, notre autre exposition qui est à la cathédrale Saint-Jérôme, hein, qui est sur Marie, hein, sur les apparitions mariales. Lourdes, évidemment, mais aussi la Salette, la rue du Bac, alors là qui a un cas particulier, Notre-Dame-du-Lot, etc. Vous voyez, donc toutes ces expositions, avec une visite guidée d'ailleurs le dimanche à 15h, hein, que j'animerai, pour ceux qui veulent connaître plus en détail cette exposition. On a aussi un catalogue, hein, qui est disponible. Voilà, donc ça c'est pour les Journées du patrimoine. Je regarde, je ne vois plus rien d'autre. Et puis quand même en septembre, nous allons installer une nouvelle exposition qui va remplacer donc celle qui est consacrée à Jacques-Antoine Manuel, hein, qui avait été prêtée par la médiathèque et le musée de la Vallée, donc de Barcelonnette. Député basalpin, donc, avait expulsé de la chambre en 1923. Personnage aussi considérable, hein, évidemment, un peu oublié, malheureusement. Donc cette exposition, on va la démonter et on la remplacera à partir du 23 septembre, donc après les journées la semaine qui suit les journées du patrimoine, par une exposition qu'on a reprise, qu'on avait présentée en 2012, vous voyez, mais qu'on a reprise sur des panneaux, qui s'appelle « Vos papiers, s'il vous plaît », hein, donc qui s'intéresse à l'histoire des papiers d'identité. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, que c'est une histoire ancienne, hein, puisque la question de l'identité est une question évidemment fondamentale, et donc tous les systèmes qui ont été utilisés pour justement permettre aux personnes d'affirmer leur identité, mais aussi aux institutions, etc., d'être sûr de l'identité de quelqu'un. Voilà. Et donc, ça s'intéresse donc aux ouvriers. Alors, il y a aussi même les carnets ouvriers, même les livrets de famille. Vous voyez, toute la famille des papiers, en fait. Hein, pas seulement les papiers d'identité, mais aussi tous les autres, les repris de justice, les nomades, hein, avec les livrets qui leur étaient consacrés, les étrangers, puisqu'on avait les premières cartes d'identité, en fait, c'est pour les étrangers, hein, contrairement, on pourrait croire l'inverse, hein, mais en fait, c'est d'abord les étrangers. Et alors, il y avait une particularité, ils avaient des couleurs en fonction des métiers, vous voyez, on distinguait, par exemple, tous ceux qui domaine agricole, de certains artisans, etc. Donc, il y avait des couleurs, alors c'était des dépluants absolument considérables, hein, qui étaient délivrés par les préfectures et qui permettaient donc aux étrangers d'avoir une activité dans l'entre-deux-guerres, hein, en fait. Hein, voilà. Et puis ensuite, les cartes d'identité préfectorales, et puis ensuite les cartes d'identité nationale, hein, qui est une invention de Vichy, dont le numéro d'ailleurs sécurité sociale, en fait, qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est alors qui était une idée déjà avant Vichy, hein, avant le régime de Vichy, mais qui a été qui était sur les cartes d'identité, les quelques cartes d'identité qui ont été faites dans certains départements, mais pas dans tous, à l'époque de Vichy, où vous aviez le 1 pour les hommes, le 2 pour les femmes, mais en réalité il y avait un 3, un 4, un 5, un 6, etc. Alors les numéros impairs c'était les hommes, et les numéros pairs c'était les femmes, et on distinguait les citoyens de souche, des citoyens qui avaient été d'origine étrangère, qui avaient bénéficié donc de la nationalité française, vous voyez, donc
les numéros d'après, quoi.
Exactement, oui, les numéros d'après, le 3, le 3 et le 4, le 4 et le 5 et le 6, etc. Et on distinguait aussi, évidemment, pour le régime de Vichy, les Juifs, qui avaient aussi leur propre numéro. Vous voyez, donc, l'idée de Vichy, c'était de ficher tout le monde. Parce qu'évidemment, totalement impossible avec les moyens de l'époque, mais c'était quand même une idée. Et ils avaient même l'idée de ficher non seulement les gens avec ce qu'on pourrait connaître aujourd'hui, vous voyez, mais aussi connaître où ils avaient fait leur école, dans quel établissement scolaire, vous voyez, privé, public, etc. Vous voyez, donc vraiment de faire, comment dire, de mettre en fiche la vie des Français, quoi. Vous voyez, c'est évidemment un projet totalement presque absurde, on pourrait penser, hein, impossible à mettre en place, mais vous voyez dans quelle idée on était, quoi, de contrôler les populations, quoi, vraiment, quoi. C'était un peu
déjà à l'époque. Maintenant, on peut dire qu'on est contrôlé aussi quotidiennement.
Alors, c'est
avec Internet.
Alors, vous savez que moi, je m'arrête toujours à une période, on va dire, les années 50, hein, voilà, pour éviter toute discuter. Alors, en fait, c'est intéressant parce que quand on avait inauguré cette exposition en 2012, c'était le président du conseil départemental, c'était non, sa secrétaire générale de l'ISIE, qui était donc député, Jean-Luc Bianco.
Voilà. Hein,
et donc il venait à chaque inauguration, et moi j'avais vu un peu l'aspect négatif, vous voyez, en fait le fichage, quoi, vous voyez, le côté un peu, oui, on rentre dans la vie des gens, vous voyez, et on les surveille, vous voyez, c'est un peu dans l'idée de surveiller, punir, vous voyez, de toute cette histoire, etc. Et Jean-Luc Bianco me dit, oui, mais attendez, c'est pas que ça. Et c'est vrai, il avait raison, c'est aussi une façon de gérer sa population. Quand on la connaît, on peut la gérer, vous voyez. Donc il y a les... Vous voyez, c'est ambivalent, quoi. Et la question, c'est toujours où se place, vous voyez, la liberté individuelle, quoi. Où est le curseur, quoi. Vous voyez, est-ce qu'il est plutôt d'un côté, plutôt de l'autre? Mais c'est important pour des autorités de connaître sa population. Comment voulez-vous ensuite proposer quelque chose si vous ne la connaissez pas? Voilà, donc il y avait, et Jean-Louis Bianco avait amené cet argument en disant, oui, certes, il y a l'aspect...
C'est Jean-Louis, hein. Oui,
Jean-Louis Bianco, ouais. Il y a l'aspect, vous voyez... fichage policier, quoi. D'ailleurs, de Bertillon, hein, pour les repris de justice, où on veut être sûr de pouvoir les retrouver, les reconnaître, donc on les fiche, hein, avec des carnets anthropométriques, hein, donc on mesure leur taille, la taille de leurs oreilles, etc. Puis après, il y a la photographie de face, de profil, etc., hein, pour être sûr de pouvoir les identifier, parce que l'une des questions, c'est quand on avait quelqu'un qui faisait un délit ou un crime et qu'on arrêtait, c'était son identité. Quelquefois, il donnait une fausse identité. Donc, il fallait absolument avoir la bonne identité. Donc, c'était un des moyens. Voilà. Mais, je disais que les cartes d'identité ont commencé pour les étrangers. C'est pas par hasard. Vous voyez, hein, c'est parce qu'on veut contrôler aussi, hein, cette population qui bouge, qu'on connaît pas bien. Voilà. Les premiers papiers, d'ailleurs, ont commencé pour les nomades. Vous voyez, 1912, hein, de mémoire. Voilà, donc, parce que c'est une population considérée, entre guillemets, comme potentiellement dangereuse, vous voyez, donc, dérangeante, vous voyez, donc, voilà. Donc, c'est une façon de contrôler les populations, donc ça c'est clair, hein, évidemment, mais c'est aussi une façon de mieux les connaître. Et puis c'est aussi une question de droit, hein, un livret de famille, ça amène des droits aussi, vous voyez, ça a aussi des conséquences positives, on va dire, voilà. Donc, voilà, c'est toujours la question un peu complexe qu'on peut évoquer. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, regarde mon petit programme. De toute façon, notre programme est en ligne, hein, sur notre site internet. Il est téléchargeable. Et puis tout ce qui est ajouté, qui n'est pas dans le programme, pour les raisons que j'ai évoquées, soit parce que quelqu'un est défaillant, soit parce qu'on a rajouté une activité, bah c'est annoncé dans nos actualités, hein, ce qui s'affiche directement quand on tape www.archive04.fr, hein, on arrive sur notre site internet et on a à la fois nos actualités, notre programme, mais on a aussi beaucoup de documents qui sont téléchargeables. Je parlais tout à l'heure de Marie, hein, par exemple, de l'exposition Marie, mais je parlais aussi donc du petit catalogue qui avait été fait à l'époque pour vos papiers, s'il vous plaît. Tout ça est téléchargeable, parce que ce sont des gratuits, hein, ce sont donc en PDF, et donc on peut tout à fait les consulter en les récupérant sur les archives sur le site des archives départementales. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on peut arrêter là.
Je pense qu'on est, oui. on est presque impeccable.
Bon. Voilà.
Il reste 2 minutes.
Voilà, et ben écoutez, Jean, lors de notre prochain rendez-vous, je ferai peut-être un petit bilan de notre mois de septembre.
Oui.
Un petit mot quand même sur la cathédrale, pour dire que finalement, on s'aperçoit cette année qu'on a plus de monde qui vient visiter la cathédrale que l'année dernière. On est à plus 900 sur les 2 mois, vous voyez. Donc on constate aussi que... Vous voyez, il y a une dynamique qui existe. Hein, on repart un peu sur les chiffres en progression et on en est très satisfait. Quoi. Voilà.
Merci Jean-Christophe Lavadie. Et on se retrouve peut-être en début de mois prochain ou milieu de mois prochain.
Oui, bien sûr. On va regarder un peu nos agendas.
Voilà.
Mais il n'y a pas de problème. Je serai toujours plaisir à venir évoquer l'activité des archives départementales et de ces 20 agents en ces lieux.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Bonne journée à tous. Merci.